Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous. Aujourd'hui, nous, on termine notre série sur Bernard-Marie Coltès.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Elle n'a pas été longue, la vie de Bernard-Marie Coltès, seulement 41 ans, entre 1948 et 1989. Mais cette courte durée a suffi à imposer un nom, un ton, une atmosphère dans le répertoire des classiques modernes du théâtre. Élevé dans la foi catholique par une mère qu'il adorait et un père militaire souvent absent avec lequel il se comprenait mal, Coltès a trouvé dans le théâtre, mais également dans les départs en Afrique ou à New York, les grands pôles d'attraction de sa vie. Une vie qui nous a été racontée lundi par Brigitte Salineau au cours d'une émission à retrouver en podcast. Et puis l'œuvre, elle se résume à 6 ou 7 pièces principales, débordant un peu les genres littéraires, certaines ressemblant à des romans et parfois constituées d'un seul monologue, sans point, comme dans La nuit juste avant les forêts. Hier, nous avons justement cherché à creuser cette œuvre avec Christophe Bidan et avec l'idée aussi de la désenclaver d'une analyse seulement dramaturgique, car on peut également la lire avec les yeux du poète ou bien avec ceux du philosophe. Et aujourd'hui ?
Je croyais toujours avant que pour écrire, il fallait respecter un certain nombre de règles sur le déroulement du temps, sur toutes ces choses-là. Et j'ai appris avec Shakespeare qu'il n'y a aucune règle, aucune règle. Il y a que la cohérence se trouve dans le sujet.
Eh bien aujourd'hui, pour nous demander à quel point Coltès reste vivant et surtout pour revenir sur son écriture théâtrale, nous sommes en votre compagnie. Florence Bernard, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici avec nous. Vous êtes l'autrice de Coltès, une poétique des contraires, publiée en 2010 aux éditions Honoré Champion. Vous avez aussi publié avec Marie-Claude Hubert le livre Relire Coltès, issu des actes du colloque Lire et jouer Coltès aujourd'hui, qui s'était tenu en 2011 à l'université de Provence. Et dans votre introduction, vous dites que malgré les colloques, malgré les livres, malgré les spectacles, eh bien le nom de Coltès demeure au fond assez peu connu des Français.
Alors c'est vrai. C'est vrai, il a, si on commence pas à parler de sa réception, effectivement, il a été très médiatisé dans les années 90, les années qui ont suivi sa mort.
Pourquoi d'après vous d'ailleurs?
Oh, parce que je pense que beaucoup de metteurs en scène avaient suivi le travail que Chéreau avait fait de ses pièces et étaient sans doute désireux de le mettre en scène également. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il attendait lui aussi. Et peut-être ont-ils là exaucé le vœu qu'il avait formulé dans plusieurs interviews, dans plusieurs entretiens. Parce que c'est une œuvre d'une très grande richesse qui est extrêmement moderne et en même temps qui nous renvoie à une écriture des grands lyriques du XXe siècle. Mmh. Donc elle appelle la scène, en même temps elle est aussi un défi pour le metteur en scène. Donc il y a un jeu, je pense, qui était tentant, séduisant pour eux. Et malgré tout, c'est vrai que même si c'est une œuvre qui est jouée dans le monde entier, principalement en Europe, mais pas seulement.
C'est même le dramaturge français le plus joué à l'étranger. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ça l'était il y a quelques années.
Je pense que ça l'est. Alors il faudrait vraiment refaire une enquête de fond.
On parle des contemporains, on parle pas de Molière,
oui,
évidemment.
C'est possible. À l'échelle de la planète, c'est possible. À l'échelle de l'Europe, sans doute pas. Mais c'est vrai que le grand public, qui l'espérait toucher, puisque on y reviendra sans doute dans le cadre de l'émission, il avait ce goût de la culture populaire aussi. Hein, c'était quelqu'un de très cultivé. Ce grand public ne le connaît pas ou le connaît très peu.
Il y a un paradoxe parce que dans le milieu du théâtre, c'est quand même un incontournable.
Oui.
Et en dehors de ce milieu où il est comme adulé, c'est vrai que son nom, au fond, n'est pas tellement connu.
Alors, il est aimer des metteurs en scène pour ce que j'en ai dit rapidement là. Il est aussi très aimé des comédiens parce qu'aussi, très certainement, sa langue, les monologues ou les faux monologues sont des défis aussi lancés aux comédiens. Apprendre cette langue-là, c'est une langue qui est complexe. La nuit juste avant les forêts, c'est une langue magnifique, mais à laquelle un comédien a envie de se confronter, très certainement. Et ces textes sont très souvent choisis dans les concours d'école de comédiens aussi pour ça.
Alors comment est-ce qu'il faut le jouer, justement, Koltès ?
Alors, comment il faut le jouer ? Je pense qu'il faut le jouer en respectant toute la complexité du personnage. Sans doute, un comédien a-t-il une approche assez psychologique, cherchant les motivations des personnages. Et Koltès, lui, cherche à empêcher justement cette saisie du personnage. Il n'était pas pour le personnage psychologique. Hein. Il l'a dit à de nombreuses reprises. Donc je pense que le comédien peut à la fois être en difficulté. Bon, il faudrait interroger vraiment un comédien hein, là pour le savoir.
Vous n'êtes pas essayé vous à déclamer. Déclame pas d'ailleurs du Koltès, mais à le dire.
Ce qui me vient à l'esprit au moment où nous échangeons, ce sont des remarques formulées par des comédiens, notamment dans des entretiens. Je pense à François Chateau, par exemple, qui a joué, qui a incarné à la fois Adrien dans Le Retour au désert sous la direction de Jacques Nichet, mais aussi Orne dans Combat de nègres et de chiens. Et il dit que c'est une langue difficile à jouer parce que justement on est à la fois entraîné dans une langue qui a une grande oralité avec parfois un niveau de langue familier, tout particulièrement dans Le Retour au désert, entre les échanges entre Mathilde et Adrien qu'il incarnait, qu'il jouait, et puis aussi une langue qui est soutenue avec des lorsques, avec des points au lieu de pas, avec des interrogatives qui sont extrêmement entières, je dirais, comme dans la langue écrite la plus maîtrisée.
Ça le rend difficile.
Oui, ça le rend difficile parce que j'en parlais aussi avec André Markovitch, qui est un grand traducteur de Dostoïevski et de Shakespeare, deux auteurs qu'aimait Koltès d'ailleurs. Et André Markovitch, découvrant une des premières pièces de Bernard-Marie Koltès, qui s'appelle Procès ivre, qui est donc issue, inspirée, disons, de Crime et châtiment. André Markovitch disait, mais voilà, c'est une langue difficile parce qu'il y a des ceux-là. Et je pense qu'un comédien doit dire ça. Et c'est vrai que spontanément, le comédien a tendance à dire ça. Parce qu'à l'oral, on dit ça. Et pourtant, c'est ceux-là. Et je pense qu'il faut aller contre cette tentation de banaliser la langue pour en garder cette hétérogénéité, si on peut dire, qui n'est pas négative, mais c'est sa richesse.
Alors, on l'a dit, Koltès a connu un moment de très grande exposition, en particulier donc dans le milieu du théâtre, mais pas seulement, aussi dans l'école où on l'a étudié. C'est sans doute moins le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il incarne, c'est une remarque qu'on entend parfois, trop, entre guillemets, les années 70 ou les années 80, si cette question a un sens, parce que son œuvre est évidemment universelle et elle parle de tout à fait autre chose que les années 80, mais on entend souvent dire qu'il est comme ça collé à une époque. Qu'en pensez-vous ?
Alors, fondamentalement, je ne crois pas. Je pense que son œuvre excède largement ces deux décennies-là, mais je peux comprendre.
Il a saisi quelque chose de cette décennie-là.
Il a saisi quelque chose d'une époque. Il a saisi quelque chose très certainement de. D'abord, il y a un regard social qu'il pose sur son époque et politique, et ça, Christophe Bidan l'aura bien abordé. Et puis, donc, La nuit juste avant les forêts qu'on a évoqué, ou Combat de nègres et de chiens, nous parle de certaines difficultés, d'un prolétariat ou du postcolonialisme, très certainement. Mais en même temps, il est le premier à dire lui-même, et je le crois, que ça parle aussi d'autre chose.
Je me sens pas mieux dans un théâtre que n'importe où. C'est pas mon lieu, le théâtre.
Hein. Ah bon?
C'est... Ben non, vous savez, je travaille chez moi. Non, mais j'aime bien me trouver dans un théâtre, regardez. Mais je fréquente pas les salles, je fréquente pas les plateaux. Je fous jamais les pieds sur un plateau, jamais, 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 même jamais. Et non, c'est pas un lieu pour moi.
Enfin, c'est par
j'y suis joué quand même, mais je peux pas dire que c'est un endroit où je me sens particulièrement à l'aise. Je me sens mieux dans dans des cafés arabes.
Une déclaration un petit peu étonnante hein, de la part de quelqu'un, Bernard-Marie Coltès, adulé donc dans les milieux du théâtre. Ça doit pas leur faire plaisir, les gens de théâtre, quand ils entendent ça. Mais vous, vous allez nous expliquer que Coltès a un rapport extrêmement ambigu, justement, avec, si ce n'est le milieu, ça je ne sais pas, mais en tout cas, l'endroit du théâtre.
Oui, quand on lit ses entretiens, notamment « Une part de ma vie » publiée aux éditions de Minuit comme tout le reste, on voit effectivement, enfin il tient des discours qui sont souvent assez polémiques, voire il aime bien hein, provoquer aussi, et puis il y a tout un jeu à se présenter autrement que les autres auteurs et à éviter une forme de banalité. Je pense qu'il est sincère aussi. Maintenant, quand il dit qu'il n'est pas à l'aise sur le plateau, qu'il n'est pas à l'aise au théâtre, il a quand même vraiment... était un homme du plateau, justement. Il a dirigé une troupe dans les premières années 70.
Il n'a jamais été réellement un comédien.
Il a été comédien, il s'est présenté hein, au concours de
du Il n'a pas été pris en tant que comédien.
Il n'a pas été pris, mais il a présenté. C'est vrai que ce n'était sans doute pas un comédien extraordinaire, mais bon... On ne peut pas non plus en juger totalement. Mais par contre, c'était un homme du plateau. En tout cas, tous les comédiens que j'ai pu rencontrer dans les 15 ou les 20 dernières années m'ont assuré que c'était non seulement quelqu'un d'extrêmement charismatique, mais qui avait une connaissance très empirique, mais précise de la direction d'acteur, du plateau, et qui s'intéressait vraiment à la manière dont tout ça fonctionnait. Donc bon, ça c'est déjà pour un peu nuancer ce qu'on a entendu. Ensuite c'est vrai qu'il va peu au théâtre. C'est vrai que quand il y va, il dit deux ou trois fois par an. Il fuit le Festival d'Avignon comme la peste. Il a l'impression que c'est le temple de l'argent et du commerce. Ça lui flanque le cafard, pour le citer.
Il y a des temples de l'argent et du commerce qui sont plus évidents que le Festival d'Avignon,
oui,
il me semble.
Oui, je pense qu'il se sent agressé par la foule et le côté marché du théâtre. Et puis quand il y va, il dit qu'il, alors qu'il s'emmerde, hein, ce sont ses mots, 99% du temps. Peut-être qu'il choisit mal. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est le propos qu'il tient. Il dit que le théâtre est en train de finir, que c'est un art qui va vers sa mort. Il dit que il déteste le milieu du théâtre, la mondanité, les mondanités. Hubert Gignoux va l'introduire dans ce milieu-là et va l'aider. Hein. C'est aussi par ce biais qu'il va rencontrer Lucien Hatoun. Et il noue des relations qui sont...
Tous ces gens dont on a un petit peu parlé dans la première émission, Lucien Hatoun, voilà. Qui a longtemps travaillé d'ailleurs ici à France Culture. Voilà. Et puis... Hubert Gignoux, qu'il a accueilli au TNS.
Tout à fait. Et donc voilà, et c'est vrai qu'il y a entre la provocation et la sincérité des choses comme ça qui sont négatives et qu'il peut dire sur le théâtre, sur les noirs au théâtre. Il parle des lumières, hein, les comédiens qui se cognent dans les meubles. Il va vraiment privilégier dans son discours d'autres formes artistiques, la musique, le cinéma, qui semble avoir sa préférence.
Donc il est un petit peu fuyant vis-à-vis
oui.
de ce monde du théâtre.
Oui, il n'a pas envie qu'on l'y enferme, mais parce que lui-même aspire aussi à d'autres formes d'écriture, scénaristique, avec Nickel Stuff, en 1985, il a cette envie de prolonger la fièvre du samedi soir.
Oui, il y a un rapport au cinéma aussi.
Oui, un rapport au cinéma, et puis à cette écriture romanesque qui l'appelle, mais qui ne concrétisera jamais totalement. Il a écrit, on en parlera sans doute La Fuite à cheval très loin dans la ville, qui ne sera publié qu'en 84, mais qu'il écrit bien avant, hein, au milieu des années 70. Il a cette envie, il écrit des nouvelles, et puis il écrit un prologue, mais il le dit, le roman, c'est plus léger que le théâtre, qui pèse de tout notre poids sur le sol, et c'est sans doute parce que le théâtre est contraignant, et qu'il est difficile, il dit décourageant. Frustrant, c'est dur pour lui d'écrire, mais c'est aussi parce que c'est difficile qu'il y a des contraintes, qu'il a un guide aussi pour écrire.
En tout cas, on remarque qu'il y a une porosité entre les genres chez Coltès. Le théâtre est assez romanesque, le roman, quand il y en a, ne ressemble pas vraiment à un roman.
Oui, alors, il y a des choses qui sont propres à lui et à ses lectures aussi, hein, on peut en reparler. Après, il s'inscrit aussi dans une époque où depuis, donc les années 70-80, ou depuis assez longtemps, les codifications ou la porosité, disons, entre les genres, c'est manifesté. Mais c'est vrai que son impulsion l'entraîne à la fois dans la parole du personnage, mais aussi dans l'envie d'écrire un roman.
Mais on peut se demander si ces pièces ne sont pas aussi des pièces à lire. Un théâtre en fauteuil, vous avez expliqué à quel point c'était difficile de le monter. C'est d'ailleurs pour ça que les comédiens aiment se confronter à la difficulté de ce texte-là. Mais est-ce que, justement, dans cette porosité roman-théâtre, est-ce que ce ne sont pas des pièces à lire ?
Alors, les premières, celles qui sont publiées à titre posthume, hein, celles qui précèdent La nuit juste avant les forêts.
Celles qui ont été un peu reniées d'ailleurs par
Colette. Celles, voilà, leur statut est assez délicat, hein, mais je trouve très important qu'on y ait accès et que François Coltès les ait fait, l'ayant droit, donc frère de Bernard-Marie Coltès, les ait fait publier. Ces pièces-là, sans doute moins, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il sait qu'il va rencontrer le public et sans doute qu'il va être publié, il choisit d'associer au texte qu'il fait représenter des textes qui ont un autre statut et qui nous entraînent effectivement vers d'autres rives que celles du seul théâtre. Ce sont par exemple, les carnets de combat de Nègre et de Chien qui vont être associés à la publication de la pièce et qui nous permettent de jeter un autre regard sur les personnages. Ce sont les monologues les trois monologues qui sont insérés entre les scènes de Key West et qui effectivement nous donnent accès à une intériorité que la scène ne permet pas. Mmh. Et il le dit, c'est une pièce Key West qui est écrite pour être représentée, mais aussi pour être lu. Et ça, il le fait à partir du moment où il sait que, voilà, qu'il a une maison d'édition.
Quel prix tu as payé, toi, pour vivre en paix dans ce pays? Pourquoi es-tu parti de chez toi? Est-ce que tu as assassiné ta mère? Est-ce que tu as fait de la politique? Un homme ne quitte pas son pays avec la honte du nom de sa mère sans un crime. Vous nous portez malheur avec l'odeur de vos crimes, de votre honte, de votre silence, de tout ce que vous cachez. Avec vous, venu ici sans père ni mère, ni race, ni nombril, ni langue, ni nom, ni dieu, ni visa, est venu le temps des malheurs, les uns après les autres. À cause de vous, le malheur est entré chez nous. Il a monté nos escaliers, il a défoncé nos portes, et ça a été le commencement de la misère, le commencement du manque d'argent, le commencement de l'obscurité, quand il faut de la lumière et des soleils qui refusent de se coucher, le commencement des bateaux qui ne s'arrêtent plus, de l'abandon des maisons par les gens honorables, le commencement du désordre, des insultes, des coups de couteau, de la peur de la nuit, de la peur du jour, de la peur collée aux épaules, du dérèglement des jours et des nuits, le commencement des maladies piquées dans notre sang par les mouches qui se cachent dans vos cheveux. Avant, le soleil était le soleil, et il obéissait aux doigts et à l'œil, et la nuit, le temps du sommeil, les portes fermées à clé, les fenêtres fermées avec des vitres et des robinets coulaient de l'eau. Mais vous avez bu jusqu'à la dernière goutte de l'eau de nos robinets, et vous n'en avez laissé pour personne. Avant, tout était bien ici. Il n'y avait ni douleur dans les jambes, ni douleur dans le dos, dans le cou, dans les yeux. Pas de fièvre qui empêche de dormir, pas de mal de ventre, ni de mal de poitrine. Alors nos corps, à nous, marchaient, bien dressés, les épaules en arrière et le dos souple. Mais votre honte a courbé lentement nos épaules et baissé notre tête. Et ça a été le commencement de notre malheur. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus rien voir. Couchez.
La compagnie des œuvres et cet extrait de Key West lu par Catherine Yégel. On est content parce que vous ne connaissiez pas cet extrait et donc on a pu vous le faire découvrir, Florence Bernard. Qu'est-ce que vous y entendez alors ?
Alors j'entends la voix de la mère parce qu'elle incarne le personnage, elle incarne ici, il me semble que c'est le personnage de Cécile, qui dirige le soleil, l'expression apparaissait dans l'extrait, elle parle de la déchéance sociale, d'une exclusion sociale qui est au cœur de cette pièce-là, hein, tout particulièrement, mais d'autres aussi, d'une dureté, d'un reniement qui est souvent le propre d'ailleurs des mères, Là, c'est une distinction que le personnage établit avec d'autres personnages parce que elle appartenait à un milieu qui était celui de la bourgeoisie et qu'elle a vécu jusqu'à sans doute la prostitution cette chute.
Parce que Key West, c'est beaucoup justement la confrontation des classes sociales. Oui. Ça se passe à New York dans un hangar.
Dans un hangar, un lieu que Coltès a connu par d'autres biais, qui a donc été détruit, mais qui était sans doute un lieu de revente de drogue ou d'échanges homosexuels. Lui, ce qu'il avait frappé dans ce hangar, c'était aussi les jeux de lumière, hein, d'un lieu qui pouvait abriter de multiples situations. Mais effectivement, dans sa pièce, c'est la confrontation de différents milieux sociaux. On a Koch qui a un niveau de vie confortable, qui arrive avec une belle voiture.
Une Jaguar,
exactement. Une assistante, Monique Ponce, qui est au petit soin pour lui, quelqu'un qui vit dans le confort, mais qui souhaite, parce qu'il a détourné de l'argent de fonds religieux, mettre fin à ses jours. Oui. Et effectivement, qui va rencontrer dans ce hangar une population qui s'y abrite.
Alors, on a l'impression que c'est l'histoire d'un lieu, justement, Key West. Enfin, faut-il parler d'histoire ? Oui, sans doute, il y a une narration, mais c'est comme un prélèvement d'un morceau de New York à une époque donnée, avec des personnes qui, on l'a dit, s'opposent. Il y a quelque chose de très ancré dans l'espace, dans le théâtre de Coltès, Florence Bernard.
Alors, plus particulièrement sans doute dans cette pièce-là, parce que comme je le disais, il a envie de raconter un lieu avec cette pièce-là. Et c'est vraiment à partir de là qu'il va chercher à faire s'y croiser un certain nombre de personnages. Là, il part du lieu. Ça n'est pas toujours le cas. Le personnage est aussi très important chez lui dans la manière dont il conçoit l'œuvre. Souvent, il les entend parler. Après, le but, c'est de trouver une véritable raison à la rencontre. Là, le lieu est un lieu de rencontre, justement. Donc, oui, le lieu, oui, c'est vrai, Michel Corvin, notamment, avait développé cet aspect. Le lieu est à la fois important et en même temps, c'est toujours un ailleurs.
C'est-à-dire que c'est un lieu qui est bien défini parfois, oui, comme ici comme à New York. Hangar, New York, c'est quand même une ville qui sera évidemment très très importante pour lui. Mais parfois, le lieu, c'est juste dans une maison. Alors, on ne nous dit pas davantage de quelle maison il s'agit. Mais il y a quand même toujours une espèce d'unité de lieu, même si celle-ci peut être brouillée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce rapport avec le théâtre classique de l'unité de lieu ?
Alors, l'unité de lieu, elle est apparente, je dirais. C'est vrai que qu'on pense à la maison dans l'héritage, qu'on pense à la maison du retour au désert, à d'autres cadres comme ça, la rue, le terrain vague dans lequel se confrontent le dealer et le client. On peut en effet penser qu'il y a là une forme d'unité de lieu, le chantier, oui, de combat de nègres et de chiens, donc le hangar de Key West. Et en même temps, ce qui l'intéresse, c'est que le lieu puisse accueillir d'autres lieux. Christophe Bidan parle d'hétérolocation, c'est-à-dire l'hétérogénéité dans le lieu. C'est un lieu qui ne l'intéresse que parce qu'il peut accueillir le multiple. Donc l'unité n'en est pas vraiment une. Le quai de Key West accueille le monde, en fait. C'est un lieu monde. On y trouve des personnes originaires d'Amérique du Sud. C'est la famille de Cécile et de Rodolphe, qui viennent probablement d'Argentine. Et puis Maria Cazares, qui jouait Cécile, donc avait des passages où elle parler en espagnol, et puis en même temps l'Afrique, avec le personnage du noir qui est Abad, qui vit aussi là, et puis les WASP que sont Monique et Koch.
Mais alors du coup, sur ce rapport avec les trois unités du théâtre classique, vous avez dit tout à l'heure que son théâtre, en tout cas sa langue, était baignée d'un certain classicisme, même si c'est en même temps une langue très urbaine et très contemporaine. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'il récupère finalement du grand théâtre classique ?
Le théâtre qu'il connaît et qu'il aime le plus n'est pas, en tout cas, ça n'est pas celui qu'il mentionne. Ça n'est pas le théâtre classique. Lui citera plus volontiers Marivaux, Shakespeare, Tchekhov, et là ce sont plutôt des esthétiques esthétique mêlée, sur le plan des tonalités, sur le plan de toutes ces règles-là. Je ne pense pas que son impulsion soit d'aller vers un théâtre classique. En revanche, et d'ailleurs, dans les premiers échanges qu'il a avec Hubert Gignoux au TNS, la discussion porte sur ça. Lui, il est favorable à un théâtre ignorant, très onirique au départ. Et la question du lieu est une question assez flottante. Hubert Gignoux va lui imposer des cadres, en tout cas lui faire comprendre qu'il est important, quand on veut faire l'épreuve de la liberté, de connaître les cadres.
Parce que son éducation chez les jésuites, c'est quand même une éducation dont on imagine qu'elle lui a donné justement des cadres très précis.
Elle
un certain classicisme.
Lui a donné, mais lui n'a pas envie de se borner à un
cadre.
Il
les a intégrés quand même.
Il les a intégrés, il les connaît, bien sûr. Bien sûr, il les connaît, il lit le théâtre de Molière, le théâtre classique, si on prend vraiment dans son époque historique, c'est un théâtre qu'il connaît. Mais encore une fois, c'est une contrainte qu'il va chercher à s'imposer, effectivement, à la fin des années 70, mais il ne s'y conforme jamais totalement.
Le travail de la scène, tel qu'il est fait en tout cas par Chéreau, met en lumière un certain nombre de défauts techniques du texte, dont à la longue il faut bien finir par se soucier. C'est ainsi que des questions que je me posais déjà, mais confusément au moment de Combat de nègres et de chiens, je me suis efforcée de les résoudre pour Key West. Ce qui se passe dans une scène, ce qui est dit, tout cela, c'est facile à imaginer. Écrire une jolie scène d'amour, c'est la chose la plus facile du monde. Bien écrire, comme on dit, c'est élémentaire, tout le monde peut le faire. Ce qui est difficile, ce qu'il faut apprendre, ce qu'on met du temps à apprendre, et qu'on rate, et qu'on recommence, qu'on ne réussit jamais tout à fait, et qui empêche de dormir, ce sont des choses comme faire entrer quelqu'un sur un plateau, lui donner une raison de sortir, et voir à quel point cette raison modifie la scène qu'on imaginait d'abord, maîtriser les personnages, même quand ils sont hors scène, pour savoir comment on va les retrouver. Et puis j'aurais voulu tout essayer, les flashbacks, les sauts dans le temps, les quelques mois plus tard, jusqu'au moment où il m'a semblé qu'impérativement, au théâtre, le temps s'écoule de manière linéaire et sans interruption du début à la fin de la pièce, et qu'on ne peut pas changer de décor sans raison. Bref, j'ai découvert la règle des trois unités, qui n'a rien d'arbitraire, même si on a le droit aujourd'hui de l'appliquer autrement. En tous les cas, c'est bien la prise en compte du temps et de l'espace qui est la grande qualité du théâtre. Le cinéma est le roman voyage, le théâtre pèse de tout notre poids sur le sol.
Compagnie des œuvres sur France Culture et cet extrait de l'article Un hangar à l'ouest paru dans la revue Théâtre en Europe en 1986. On entend bien Florence Bernard, la connaissance intime de ce que c'est que le théâtre chez Coltès et aussi la connaissance de sa mécanique.
Oui, en fait, au moment où il laisse Chéreau s'occuper, j'allais dire, de ses pièces, en tout cas, il discute avec lui, il voit quelqu'un d'autre s'en emparer, et en même temps aussi qu'il va vers une esthétique plus réaliste, malgré tout, et les deux sont peut-être liés, il va effectivement se trouver confronté à certaines difficultés, parce qu'il faut bien justifier la présence de personnages en scène et l'esthétique qu'il l'utiliser jusque-là était une esthétique plus onirique, de montage. Donc les personnages pouvaient se croiser, apparaître, disparaître selon des modalités qui étaient beaucoup plus diffuses. La nuit juste avant les forêts, on n'a qu'un seul personnage aussi présent sur la scène. Donc la question ne se pose pas. Avec Combat de nègres et de chiens, avec Key West, on a là... un travail sur le texte qu'il voit faire par un maître du plateau, qui est Chéreau, qui s'inquiète de certaines choses. Et je pense qu'il y a sans doute là une contamination.
Donc Chéreau lui fait prendre conscience d'un certain nombre de choses qui vont peut-être modifier d'ailleurs son écriture.
Oui, il s'est vraiment arraché les cheveux. Ça n'est pas l'expression qu'il emploie, mais il dit ça peut empêcher de dormir, de savoir comment faire entrer, sortir un personnage de la scène. Il a eu de très grandes discussions avec Claude Stratz, qui était l'assistant de Patrice Chéreau, pour réussir justement à mettre au point les entrées et les sorties des personnages de Key West.
Mais alors, de ce point de vue-là, est-ce que vous avez l'impression, Florence Bernard, qu'il a apporté des choses nouvelles à la mécanique du théâtre ou au théâtre en général? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un théâtre qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire ou qu'il constitue un tournant quand même dans l'histoire du théâtre?
Il y a des auteurs qui sont, à mon avis, beaucoup plus révolutionnaires et qui ont mis beaucoup plus, qui ont contesté beaucoup plus les paramètres qu'on évoque de la dramaturgie. Ce qui est intéressant, c'est la tension, justement, l'équilibre qu'il établit entre ce classicisme, je n'aime pas trop le mot, mais certaines conventions du théâtre. On a un personnage qui dit des choses qui ont un sens, et en même temps, on peut retrouver une forme de défiance par rapport au langage, par rapport aux règles, aux unités dont on parlait.
Le personnage dit des choses, et c'est ce que le personnage dit qui est important. Au fond, ce qui intéresse Coltès, c'est tout simplement ce qu'il a à dire, et c'est ce petit morceau de monde qu'il a envie de recréer sur scène avec une vision qui est sa vision et qui est une vision onirique. C'est ça qui compte au fond. Il ne s'agit pas de changer le théâtre pour changer le théâtre.
Je pense qu'il a envie de faire les choses à la perfection. C'est une expression qu'il emploie, de faire les choses bien et aussi de ne pas être banal. Ouais. Ça revient beaucoup dans sa bouche.
Il y a une angoisse de la banalité chez lui.
Voilà, il faut éviter la banalité et il faut trouver sa propre voie avec les influences des uns et des autres. Si on en vient au personnage, puisque vous l'évoquiez, on a quand même un personnage qui se tient chez Coltès.
Alors je vous propose justement qu'on parle du personnage dans quelques minutes, juste après notre traditionnelle chronique du jeudi.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique du jeudi qui est, vous le savez, une carte blanche offerte à une ou un ami de la compagnie. Aujourd'hui à vous, Bruno Blankmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, spécialiste de la littérature française contemporaine. Et vous demandez aujourd'hui comment situer Coltès tout simplement dans l'histoire du théâtre.
Oui, c'est un petit regard rétrospectif, mais qui part d'une expérience qui est commune à bien des personnes de ma génération intéressées par le théâtre lorsqu'elles étaient jeunes. Ces personnes, bon, elles le sont toujours, mais différemment. Et quand on a découvert Coltès, quand on allait voir les mises en scène de Chéreau aux Amandiers, c'était un choc. C'était vraiment un choc.
Vous aviez, pour le coup, l'impression d'un théâtre révolutionnaire ?
Alors, révolutionnaire, absolument pas, mais le choc n'en était que plus grand. C'est-à-dire que, pour resituer, il y avait, à cette époque-là encore, il y avait Barreau, la compagnie Renaud Barreau, qui mettait en scène des spectacles. Il y avait Vitesse, jusqu'en 1989. Il y avait Peter Brook. Il y avait comme ça une espèce de d'éclatement du théâtre créatif. Il y avait évidemment le Théâtre du Soleil, Ariane Nouchkine. Mais c'était une diversité dans l'expérimentation plus ou moins acquise, plus ou moins instituée. Et Coltès, ce qui était sidérant, hormis bien sûr le choc de cette langue, qui est à la fois une langue théâtrale, mais aussi une langue poétique et une langue rhétorique, qui pousse jusque dans ses extrêmes tout ce qui est la logique de l'argumentation, mais...
Ce qui renvoie là pour le coup au théâtre classique.
Au théâtre classique, mais pour vicier cette logique, non pas pour délivrer une sorte de vision du monde qui serait bien solidement ancrée dans un espace-temps et une intelligence mentale, mais au contraire qui se sert de cette rhétorique spéculative, comme dirait Pascal Quignard, pour tout déplacer vers des zones semi-obscures, ou du moins différemment lumineuses, qui sont celles qu'il explore par ailleurs dans un certain nombre de ses pièces.
Alors comment le situé donc dans l'histoire du théâtre.
Alors, écoutez, on va faire bref, et donc je ne vais pas rentrer dans la nuance. Rétrospectivement, si on regarde vraiment l'histoire des grands auteurs à texte de théâtre du XXe siècle, il y en a trois qui sont immenses, qui se détachent. C'est Claudel, et Coltès n'était pas sans l'avoir lu et sans l'apprécier. C'est Beckett. Et c'est Coltès. Mmh. Et il y a comme une sorte, chez Coltès, de double empreinte, à la fois claudelienne et beckettienne. C'est-à-dire que de Claudel, il y a cette espèce d'élan, alors qu'on pourrait appeler un élan mystique, sauf que chez Coltès, cet élan mystique n'est pas au service d'un dieu qui serait objectivable ou qui aurait nom. C'est une sorte de requête, c'est une sorte de demande qui transcende les personnages, mais sans avoir d'écho. Alors, c'est aussi ce qui le rattache à l'univers de Beckett, avec emprunté plus ou moins volontairement à Beckett, cette espèce de scénographie des dérives urbaines, des non-lieux ou des lieux autres qui ne correspondent à aucun paysage socialement fixe, mais qui sont des lieux de la marge et donc des lieux où une représentation autre de l'humain et de la violence d'être homme ou femme emprise à certaines situations peut être explorée de façon extrêmement dramatique.
Est-ce que vous avez un exemple pour terminer, Bruno Blankmann, de ce que vous dites là ?
Oh, écoutez, la pièce qui est peut-être de ce point de vue-là le chef-d'œuvre de Coltès, c'est Dans la solitude des champs de coton. Autour de cette question du non-lieu ou du lieu autre en dérive de la cité, et autour de cette question et de ce motif du deal. Qu'est-ce que le deal dans cette pièce ? Ça n'est pas simplement potentiellement la drogue, ce n'est pas simplement potentiellement la prostitution, le corps à acquérir ou à vendre, c'est aussi, le deal, une certaine façon de penser la présence de l'être au monde. Dealer son existence, c'est en quelque sorte la remettre chaque jour, chaque nuit, en jeu, au contact de l'autre, dans un lieu qui n'est plus un lieu de haute sécurité. C'est ça, dealer son existence, être au monde et être sur scène.
Et on sent bien donc toute la puissance de cette pièce Dans la solitude des champs de coton. Merci Bruno Blankmann pour cette mise en perspective de l'œuvre de Coltès et à très bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture au dernier jour d'une série consacrée depuis lundi dernier à Bernard-Marie Coltès, le dramaturge notamment de Combat de nègres et de chiens, dont voici tout de suite un extrait.
Look at the sky with me. The clouds.
Acceptez, Albouri, acceptez. Il vous propose même de l'argent, gentiment de l'argent. Que vous faut-il de plus ? Lui est venu pour arranger les choses, c'est certain. Eh bien, il faut arranger les choses, puisque c'est possible. À quoi ça sert de vouloir se battre pour quelque chose qui n'a plus aucun sens quand on vient gentiment proposer d'arranger tout, et de l'argent en plus. C'est l'autre qui est un fou. Mais pour cela, on le sait maintenant, on n'a plus qu'à faire bien attention. Et enfin, à nous trois, on arrivera à l'empêcher d'embêter le monde, c'est sûr, de faire du mal. Et alors, tout marchera comme sur des roulettes. Lui, ce n'est pas du tout la même chose. Il est venu pour gentiment parler, mais vous, vous dites non, vous serrez les poings, vous restez têtu. Ouh, je n'ai jamais vu si têtu. Et vous croyez, comme cela, obtenir quelque chose? Mon Dieu, mais il ne sait pas du tout s'y prendre, celui-là, pas du tout. Alors que moi, je saurais bien comment m'y prendre, si vous me laissiez faire. Sûrement pas en serrant les poings, non. Surtout pas en prenant des airs de guerre et têtu, ouïouïouï, car ce n'est pas la guerre que je veux vivre, non. Ce n'est pas me battre que je veux, ni trembler tout le temps, ni être malheureuse. Moi, c'est vivre tout court que je veux, tranquillement, dans une petite maison, où vous voudrez, tranquille. Oh, je veux bien être pauvre, cela m'est bien égal, et chercher l'eau très loin, et cueillir aux arbres, et tout le Saint-Frusquin. Je veux bien vivre d'absolument rien du tout, mais non pas tuer et me battre, et m'entêter à serrer les poings. Oh non, pourquoi être si dur ?
Une lecture par Catherine Yégiel. Alors dans cette pièce extrait de qu'on vient d'entendre de Combat de nègres et de chiens, il y a un certain nombre de personnages. Il y a le vieux Horn qui fait donc venir une femme de Paris pour se marier avec lui dans ce chantier d'Afrique coupé du monde, surveillé par des miradors. Il y a Albouri, l'homme noir qui vient chercher le corps d'un ouvrier renversé par un camion. Il y a l'ingénieur Calvo. Il y a un certain nombre de personnages. On a terminé justement sur cette thématique avant la chronique de Bruno Blankmann, Florence Bernard. Qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont il construit ces personnages et du rapport qu'il entretient avec eux?
Oui, d'abord je voudrais rectifier quelque chose. Tout à l'heure on a entendu Catherine Yégiel dans Key West et je pense que c'est le personnage de Monique qu'elle a interprété dans dans cette pièce-là, puisque Cécile était interprétée par Maria Cazares. Je referme la parenthèse pour vous répondre. Le rapport qu'il entretient avec le personnage, oui, je vous disais tout à l'heure, le personnage se tient quand même chez Coltès, c'est-à-dire qu'il a une forme d'identité. Il a un prénom, il a parfois un nom. Maurice Coche, Monique Ponce, dans Key West, il a parfois un âge, même si c'est rare, hein, un métier. Donc quand même des contours. Et Coltès y tient à ces personnages, il dit qu'il les aime, il dit qu'il les défend.
Pourquoi est-ce qu'il faut les caractériser alors qu'on est dans un monde presque onirique, parfois irréel ?
Alors ça, il ne le dit pas. Pourquoi est-ce qu'il faut les caractériser? Oui, je pense qu'il se projette dans ces personnages-là. Pour le dealer et pour le client, il disait qu'il les écrivait à tour de rôle et que un après-midi ou une partie de la journée, en tout cas, il se projetait dans l'un et puis il fallait qu'il attende le lendemain pour pouvoir se projeter dans l'autre. Donc il y a quand même une profondeur de ce personnage et en même temps, toute la profondeur du personnage tient au fait que s'il n'est pas un personnage brechtien de l'ordre du pantin, il n'est pas non plus un personnage psychologique. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Il l'a dit un très grand nombre de fois. C'est ce qui peut dérouter le comédien, justement, hein, et aussi le séduire. Ça n'est pas un personnage psychologique parce qu'il considérait, comme d'autres, que le portrait psychologique, c'est ce qu'il y a de plus mesquin, je le cite, hein, de plus mesquin.
De plus bourgeois.
De plus réducteur. Oh non, de plus réducteur. C'est quelqu'un qui aimait énormément Dostoïevski. On en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure. Dostoïevski aussi, Bakhtin le dit dans la poétique de Dostoïevski, c'est quelqu'un qui voyait dans la psychologie une humiliation de l'homme par la chosification de son âme, dans le non-respect de sa liberté, de son affinité. Je crois que Coltès est comme ça aussi, et que pour lui, il est important que le personnage présente des facettes extrêmement multiples jusqu'à la contradiction.
Donc il y a un côté cinéma peut-être dans la façon dont il montre les personnages sans ni les juger, ni trop les caractériser psychologiquement et en les laissant libres aussi.
Alors cinéma, ce que je comprends oui dans cette évocation-là du cinéma que vous faites, c'est de l'extérieur.
Oui,
oui, il le dit, lui ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les pourquoi, c'est le comment. Voilà, parce que les motifs qui poussent tel ou tel personnage à faire telle ou telle chose sont souvent erronés, réducteurs, sans grand intérêt. Et donc, il va nous montrer des personnages qui peuvent faire des choses très très intenses, mais sans forcément nous donner le motif du sentiment, enfin le sentiment qui préside
Voilà, c'est ça, c'est le regard caméra en fait, plutôt que le cinéma qui peut en effet être psychologique.
Les gens agir. Ouais. Bon, il leur donne aussi la parole. Et quand il leur donne la parole, ces personnages peuvent s'exprimer et exprimer des sentiments qui sont contradictoires.
Alors justement, quand il leur donne la parole, c'est assez intéressant ce que vous venez de dire sur la manière dont il a écrit les dialogues comme finalement deux personnages qu'il fallait écrire de manière séparée. C'est pas tant la scène qu'on écrit, c'est l'écriture d'abord d'un personnage puis de l'autre. Et ça, ça se sent vraiment dans l'écriture, puisque davantage qu'un dialogue, on est bien souvent dans une succession de monologues.
Oui, sans doute beaucoup plus au début, dans ses premières pièces, donc celles publiées à titre posthume. Bon, je mets de côté La nuit juste avant les forêts, évidemment, qui où un seul personnage s'exprime, mais il le disait lui-même, c'était plus des monologues que vraiment des dialogues. Et le travail avec Patrice Chéreau, disons, le fait de ne plus être le metteur en scène aussi hein, de ces pièces, qu'il est jusqu'à La nuit juste avant les forêts, qu'il met en scène lui-même. Il met en scène Iferi au Festival of d'Avignon en 77. Le fait aussi de se retrouver à la place du public quand il est là, pour voir le travail de Chéreau, et les questions que Chéreau pose sur le texte, très nombreuses, le poussent aussi sans doute à envisager une forme plus dialoguée. Et d'ailleurs, les deux dernières pièces, Le retour au désert et Roberto Zucco, reposent sur bien plus de dialogues que ces pièces précédentes.
Donc on est passé d'un théâtre, alors je vais peut-être me tromper dans cette analyse, mais qui est davantage classique, encore une fois, je reviens toujours à ce côté rhétorique qu'on trouve chez Coltès, à un théâtre où on est dans un dialogue plus rapide, et donc il y a quelque chose finalement, c'est la scène qui compte, moins que la rhétorique des personnages.
Alors, moi, je ne dirais pas les choses comme ça. Je pense que son premier théâtre est un théâtre qu'il veut expérimental. Hein. Il dit c'est un théâtre ignorant, un théâtre expérimental. Donc, l'onirisme l'aide aussi à faire que les personnages sont en présence. Ensuite, on est dans un univers qui est plus réaliste, en tout cas avec une hypothèse, pour employer ces mots, réaliste, avec Combat de nègres et de chiens, ce chantier dans un pays d'Afrique occidentale, avec un métier justement plus précis pour ces protagonistes. Et là, on est ancré dans une réalité et la communication se fait par un dialogue, alors qui n'est pas aussi simple que ça, mais quand même plus de dialogue.
Alors, les personnages ont-ils un corps, Florence Bernard, chez Coltès, et quel est le rapport au corps, voire même à la chair, de ce dramaturge?
Alors, le personnage a un corps, ce corps est important, surtout quand il est associé au corps noir et au corps blanc. C'est,
qui peuvent se mélanger, justement. Il y a ça aussi chez Coltès.
Alors, il y a différentes choses. Quand le personnage noir va apparaître à partir de Combat de nègres et de chiens, et il y tient, il le dit, dans chaque pièce, il faut en voir un. Alors, dans Roberto Zucco, on a la noirceur de l'âme du personnage, mais c'est moins facile de le trouver dans cette dernière pièce-là, mais parce qu'il s'inspire aussi d'un fait divers. Après, pour ce qui est de la conception du corps en tant qu'organisme, là, on est sur un point différent. Le corps du personnage, il est assez insaisissable. Le corps, c'est une manière d'être au monde, d'être au contact d'un environnement qui peut être un entourage, donc des personnes, et un lieu, un endroit. Et cet ancrage-là est souvent problématique dans les pièces de Coltès, dans ses textes aussi non dramatiques. Donc ce rapport au monde me fait penser, en tout cas dans la lecture que j'en ai eue en m'intéressant à ces premières pièces, me fait penser à une conception assez ancienne, celle du grotesque ou du carnavalesque, c'est-à-dire d'un corps qui se sent menacé par l'extérieur.
Vous avez un exemple ?
Oui, alors je pense notamment à une ébauche de pièce qu'il n'a pas eu le temps de mener à bien, qui s'appelle Coco.
Sur Coco Chanel.
On a deux, voilà, sur Coco Chanel. Bon, là, une couturière en fin de vie, c'est ça qui l'intéresse. Le corps malade, c'est un corps qui revient souvent, un corps malade, boiteux, bon, on peut penser à Beckett aussi d'une certaine manière chez lui dans cet aspect-là. Et donc dans cette pièce, on a le corps malade de Coco, mais en face de Coco, on a Consuelo qui est sa domestique, on pourrait dire, la personne qui l'accompagne dans son quotidien. Et Consuelo passe son temps à se remettre du rouge à lèvres. Et Coco lui demande pourquoi elle aurait ce qu'on dirait aujourd'hui ce toc, pourquoi est-ce qu'elle a ce geste. Et Consuelo dit qu'elle passe ce rouge à lèvres sur sa bouche parce qu'elle a peur que ça s'effiloche et que son corps, d'une certaine manière, se répande. Ce motif du corps qui se répand ou du corps qui va être envahi par l'extérieur, on l'a assez souvent dans
ou les du corps qui est à moitié animal aussi, qui a des pattes par exemple.
Alors ça c'est surtout langagier chez Coltès, bon comme le reste d'ailleurs. C'est une difficulté que l'on va avoir à se situer par rapport à un environnement et par rapport à une image de soi-même. Oui, donc le corps animal là, c'est souvent un symbole qui pourrait être employé au combat de nègres et de chiens. Les chiens, ce sont aussi les blancs. C'est ça qu'on attendrait comme pendant aux nègres, en sachant bien sûr que chez Coltès, le mot nègre est un mot qui porte toute cette couleur, Niger, Niger, Nigeria. Le noir est pas un terme raciste. Ce corps est un corps qui est problématique. Voilà.
Il est problématique, mais il est aussi flou dans le genre. Et ça, c'est aussi une thématique qui n'était pas à la mode comme elle l'est aujourd'hui, mais qu'on sent un petit peu dans les pièces de Coltès. C'est l'androgynie, les personnages de femmes qui souvent ressemblent à des garçons, dans Key West par exemple.
Oui, alors c'est, on peut penser à ça avec le personnage de Nekata dans Prologue, qui est ce texte romanesque qu'il ne mènera pas à bien. Nekata, c'est une créature étrange. D'ailleurs, lorsqu'elle meurt, à sa place, une fleur bâtarde, hybride, vient comme la remplacer dans notre monde. On peut penser à Arié aussi dans l'une des premières pièces de Coltès, dans l'héritage, qui est mi-homme, mi-femme. On peut penser même à une phrase que dit, je crois que c'est je ne sais plus si c'est le client ou le dealer dans la solitude des champs de coton, on ne sait plus où est le sexe, il se balade quelque part dans une douce indécision des choses. Oui, il y a ça, mais je crois que ça dit aussi la difficulté que nous avons à nous identifier, à nous cerner, et puis peut-être aussi la difficulté du langage à dire ce que nous sommes. Puisque la gamine, par exemple, dans Roberto Zucco, se plaint qu'on l'appelle tout le temps de petits noms d'oiseaux positifs, mon rossignol.
De toute façon, il y a chez Coltès l'idée que le langage ne peut pas dire le réel. Et c'est aussi l'un de ses sujets, c'est-à-dire de montrer par la parole comment la parole, finalement, a beaucoup de limites, trop de limites.
La parole a des limites. D'ailleurs, Roberto Zucco voudrait qu'on ferme les écoles, qu'on arrête d'enseigner les mots. Et ils sont Man ne parle plus, Abad parle extrêmement peu, on n'entend pas sa voix dans Key West, c'est vrai, mais contrairement à d'autres, par exemple à Beckett qui va, alors l'effacement du corps et éventuellement aussi de la voix avec des pièces de pantomime, là on n'est pas dans un épuisement de la parole, mais plutôt dans un affolement de la parole, mais une parole qui manque effectivement son cap, comme chez d'autres auteurs, comme chez Lagarce aussi, une parole qui vient recouvrir ce qu'on voudrait dire, ce qu'on n'arrive pas à dire. Et en même temps, même s'il y a des limites, Coltès dit que c'est parce qu'il y a des limites justement qu'il faut le jouer à plein.
Je suis albourri, monsieur. Je viens chercher le corps. Sa mère était partie sur le chantier poser des branches sur le corps, monsieur. Et rien. Elle n'a rien trouvé. Et sa mère tournera toute la nuit dans le village à pousser des cris, si on ne lui donne pas le corps. Une terrible nuit, messieurs. Personne ne pourra dormir à cause des cris de la vieille. C'est pour cela que je suis là.
C'est la police, monsieur, ou le village qui vous envoie?
Je suis albourri, venu chercher le corps de mon frère, messieurs.
très court extrait pioché dans les premiers paragraphes de Combat de nègres et de chiens. Cette pièce qui commence donc par un mort, puisqu'Albury va chercher ce corps. On peut peut-être terminer notre émission par là, Florence Bernard, parce que la mort, vous en avez parlé au colloque de Marseille. Vous avez expliqué que le regard de Coltès sur la mort est très ambivalent entre foi et athéisme. La foi qui est sans doute celle de son enfance, et puis athée, c'est l'homme qu'il deviendra assez vite. Quel est son rapport à la mort, ou celui que on peut déceler à travers ces personnages?
Alors c'est vraiment très difficile de parler de son rapport à la religion, même si c'est un sujet qui est très important, en effet. Il était très croyant, petit. Il a été enfant de cœur. Il a vraiment fréquenté ce milieu-là, les études chez les jésuites. Et puis il s'en est éloigné jusqu'à vraiment affirmer ne plus croire. Donc ce rapport à la religion n'est pas directement exprimé. Je pense qu'il se différencie en cela de Dostoïevski, par exemple,
Donc la mort est envisagée simplement comme la fin de la vie chez Coltès.
Alors pas. Non, pas totalement, non. Ça n'est pas si simple que ça. Parce que l'œuvre est traversée de certaines croyances, d'une forme de transcendance. Il n'y a qu'à penser à la fin de Roberto Zucco, avec ce moment d'élévation qui peut faire penser à une forme de théophanie. Roberto Zucco, c'est à la fois Jésus, l'ascension, hein, et en même temps c'est Lucifer qui chute, et on ne saura jamais dissocier les deux aspects du personnage. Il y a une dimension, tout un attrait pour le mythe, pour des personnages plus grands que la seule humanité.
Et puis dans le cas de Roberto Zucco, il y a peut-être un attrait pour l'acte du meurtre, et cet acte qui n'a pas de sens, enfin c'est mettre fin à une vie comme ça.
Oui, comme ça exactement, sans toute la lecture que fait Dostoïevski dans Crime et Châtiment, et que d'ailleurs écarte pour une grande part Coltès dans sa réécriture de procès-ivre de Crime et Châtiment. Oui, mais moi ce que je trouve plus intéressant encore dans son rapport à la mort, c'est le fait que il s'en sert aussi comme d'un ressort de comique dans son œuvre.
Oui, il y a quelque chose, là encore, de grotesque ou de tragicomique.
Il met le pathos très souvent à distance, comme dans sa vie d'ailleurs. C'était quelqu'un qui, même quand il était question de sujets graves, préférait le rire aux larmes. Comme le dit Isaac de Bancolé, je ne l'ai jamais vu pleurer.
Un des acteurs de Coltès.
La joie même dans la souffrance. Voilà, c'est quelqu'un qui tient à distance la mort, souvent en ne la représentant pas directement sur la scène. Celle de Roberto Zucco, c'est une mort qui n'en est pas totalement une. Celle d'Edouard dans Le Retour au désert, il saute et disparaît sans qu'on sache vraiment s'il a disparu ou pas. Est-ce que c'est une métaphore de la mort? Coltès ne le pensait pas, ne le voulait pas, mais c'en est quand même évidemment une.
Ouais.
Et puis... Et puis, il se moque aussi des morts.
Et la question du suicide aussi, parce qu'on sait que lui-même a été tenté de mettre fin à ses jours.
Alors, il a tenté, comme m'avait dit un de ses proches, il n'a pas fait semblant. Hein, il a vraiment cherché, au moins envoyer un très grand signal de détresse à ses proches. Ce suicide revient très souvent. Quand ça n'est pas le meurtre, bon, c'est quand ce n'est pas un personnage qui cherche à abréger la vie d'un autre, c'est le personnage lui-même qui peut y penser. Et ce suicide est souvent présenté sous un jour assez... assez dérisoire, pas que, mais assez dérisoire aussi.
D'où toute l'ambiguïté de la manière dont Coltès représente la violence dans ses pièces. Merci beaucoup Florence Bernard. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en littérature française du XXe siècle à l'université d'Aix-Marseille et autrice de Coltès, une poétique des contraires, publiée par Honoré Champion. C'était la compagnie des œuvres Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et Souad Boukorza. Lundi, tout autre chose, nous reviendrons sur la vie et l'œuvre du baron Haussmann en nous demandant s'il a été l'inventeur d'un nouveau Paris ou simplement le maître d'œuvre d'un plan qui remonte plus loin. Et tout de suite, on retrouve les sciences sur France Culture.